Vous écoutez, on lit pour vous.
Double peine pour les détenues et autres nouvelles féminines. Un texte de Chloé Machilot, paru le 5 juin 2023 dans le magazine Châtelaine. Tour d'horizon, des nouvelles récentes qui concernent les femmes d'ici comme d'ailleurs. Double peine pour les détenues. Les centaines de femmes détenues depuis 2016 à la prison Leclerc, à Laval, ne sont pas au bout de leur peine. En effet, le nouvel établissement qui leur est destiné à Montréal n'ouvrira pas ses portes avant 2030. Pourtant, l'incarcération à Leclerc de ces femmes accusées de délits mineurs devait être une mesure à court terme en raison du délabrement de l'établissement et des installations inadaptées à leurs besoins. Cette situation décourage les associations qui militent pour de meilleures conditions de vie des détenus. À bout de patience, la Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec rappelle que cette prison avait été fermée en 2012 parce qu'elle était vétuste. Outre la vermine, la moisissure, les problèmes d'eau potable et de chauffage, le personnel n'est pas formé pour encadrer une population féminine. Les fouilles à nu et les humiliations sexistes détruisent psychologiquement les prisonnières, ce qui réduit grandement leurs chances de réinsertion, déplore Louise Henry, ex-détenue et membre de la coalition qui a publié l'an dernier le livre choc « Délivrez-nous de la prison Leclerc, éco-société ». Le nouvel établissement pénitentiaire de Montréal devrait être bâti sur les ruines de l'ancienne maison pour femmes Tanguay. Le projet comprend aussi des rénovations de la prison pour hommes de Bordeaux, située tout près, ce qui, d'après Louise Henry, explique la durée annoncée des travaux. « Je ne crois pas qu'on laisserait croupir des hommes aussi longtemps dans les mêmes conditions », déplore-t-elle. Le tabou des femmes en prison est encore immense et la société est sans pitié concernant leurs conditions carcérales. Il faut cesser de leur infliger cette double peine. Effets collatéraux de la violence. Les femmes victimes de violences conjugales sont 3 fois plus susceptibles de contracter le VIH, selon une étude dirigée par une équipe de recherche en santé des populations de l'Université McGill. L'étude révèle l'effet combiné de ces 2 fléaux dans certaines régions du monde, dont l'Afrique subsaharienne. Source : Université McGill et The Lancet HIV. Une Québécoise influente. La Rimouskoise Émilie Chary Tissier figure au palmarès annuel Women in AY Ethics, qui recense les 100 femmes les plus influentes dans le monde qui travaillent en intelligence artificielle. Cette biologiste a cofondé l'entreprise Whale Seeker, misant sur la technologie pour contribuer à la sauvegarde des mammifères marins. Source : Le Journal de Québec. Les emplois soumis au salaire minimum sont souvent occupés par des femmes, que le gouvernement respecte les plus démunis au Québec. On va se battre pour ça jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Ce n'est pas normal que les personnes qui travaillent au salaire minimum aient besoin d'aller dans une banque alimentaire. Magali Picard, nouvelle présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, nommée en janvier dernier, première femme et première autochtone à occuper ce poste. Source : Le Devoir. Quel droit pour les Afghanes ? La liste des interdits était déjà longue pour les femmes vivant sous le régime des talibans, et leur cauchemar ne semble pas près de cesser, puisqu'elles n'ont désormais plus le droit de fréquenter les universités. Aucune explication n'a été fournie pour justifier cette mesure d'une durée indéterminée. Depuis leur prise de contrôle du pays en août 2021, les fondamentalistes islamistes écartent sciemment les femmes de tous les espaces publics. Source : ici Radio-Canada.ca. 77% des femmes participant à des jeux vidéo en ligne subissent des attaques sexistes, révèle un sondage dénonçant les violences qui subsistent sur ces plateformes virtuelles. Pour se soustraire au jugement sur leurs compétences, aux remarques dégradantes ou même aux demandes de relations non sollicitées, 59% des joueuses confient dissimuler le fait d'être une femme. Source Reach 3. C'était « Double peine pour les détenues et autres nouvelles féminines », un texte de Chloé Machillot, paru le 5 juin 2023 dans le magazine Châtelaine.
Dix victoires pour l'environnement. Un texte de Mathieu Fanière, paru le 22 mars 2023 dans le magazine Courrium. Quand les mobilisations font plier les gouvernements, c'est la nature qui est gagnante. Voici 10 dates victorieuses pour l'environnement. 1872. À la demande de la population, appuyée par les travaux du géologue Ferdinand V. Hayden, les États-Unis créent le parc de Yellowstone. Pour la première fois de l'histoire, un pays décide de protéger une région afin d'en faire un lieu exempt d'exploitation mercantile et voué à la satisfaction du peuple. 1962. La biologiste américaine Rachel Carson publie « Printemps silencieux ». Ce livre, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, mène à l'interdiction du pesticide DDT aux États-Unis. 1970. Plus de 20 millions de personnes répondent à l'appel du sénateur américain Gaylord Nelson et manifestent dans les rues pour célébrer le tout premier jour de la Terre. À la suite de cette manifestation, les États-Unis créent l'Agence de protection de l'environnement et adoptent les lois Clean Air et Clean Water. 1971. Greenpeace est fondée à Vancouver. Cette organisation non gouvernementale, initialement créée en opposition aux essais nucléaires américains, devient rapidement un acteur majeur du militantisme environnemental sur la scène internationale. 1977. À 27 ans, Wangari Maathai fonde au Kenya le mouvement de la ceinture verte Green Belt Movement. Pour lutter contre la déforestation et l'érosion des sols, elle encourage les Kenyans à planter des arbres autour de leurs villes et villages. Depuis, plus de 50 millions d'arbres ont été plantés et plus de 30 000 femmes ont été formées à des métiers qui les aident à gagner leur vie tout en préservant leurs terres et leurs ressources. 1987. Sous l'impulsion du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 24 pays, dont le Canada, signe le protocole de Montréal. L'objectif? Freiner la destruction de la couche d'ozone en éliminant les substances qui la dégradent. En 2022, un comité des Nations Unies indique que le trou de la couche d'ozone sera complètement résorbé avant la fin du siècle. On estime également que ce protocole a contribué à prévenir des millions de cas de cataracte et de cancer de la peau. 1989. Raoni Metuktar, grand chef du peuple Kayapo, entreprend avec le chanteur Sting une tournée dans 17 pays pour sensibiliser la population à la déforestation de la forêt amazonienne. 4 ans plus tard, il obtient du président brésilien la création d'une immense réserve de plus de 100 000 km². 1991. À la suite d'une campagne des associations de défense de l'environnement, 26 pays signent le protocole de Madrid qui interdit toute exploitation minière en Antarctique pour une durée de 50 ans. 2019. Les 20 et 27 septembre, 6 millions de personnes à travers le monde, dont 500 000 à Montréal, manifestent pour presser les gouvernements d'agir contre les changements climatiques. 2021. Après 3 ans de mobilisation par les groupes environnementaux québécois, le gouvernement provincial rejette le projet de gazoduc GNL Québec. Merci à Marouane Joundi, chargé de projet à la Fondation Rivière, et à Albert Lalonde, étudiant et consultant pour la Fondation David Suzuki, pour leur collaboration à ce dossier. C'était 10 victoires pour l'environnement. Un texte de Mathieu Fanière, paru le 22 mars 2023 dans le magazine Courium.
Lutte biologique. Jusqu'où peut-on aller? Par Jacques Brisson, paru dans Quatre temps, printemps 2023. La lutte biologique consiste à introduire une espèce, prédatrice, pathogène, herbivore, etc., pour lutter contre des organismes nuisibles, ravageurs de cultures, plantes envahissantes, etc. Cette alternative écologique à l'utilisation de pesticides chimiques peut représenter une solution durable et l'histoire de son utilisation est emplie de formidables succès, comme l'introduction de la chenille Cactoblastis cactorum en Australie pour lutter contre l'invasion du cactus Opuntia stricta. Cependant, la lutte biologique a aussi été la cause de catastrophes écologiques, comme l'introduction de la mangouste à Hawaï pour lutter contre le rat. La mangouste, un prédateur chassant le jour, a décimé les espèces indigènes d'oiseaux, laissant tranquille le rat, qui est nocturne. La mise en place d'un programme de lutte biologique exige donc que l'agent de lutte ne s'attaque qu'à l'espèce que l'on souhaite maîtriser. Un cas particulier a fait couler beaucoup d'encre au cours de la dernière décennie. Celui du roseau commun, Phragmites australis, en Amérique du Nord. Cette espèce venue d'Europe représente une véritable menace à l'intégrité écologique des milieux humides. Or, les chenilles de deux papillons de nuit européens, Arcanara neurica et Lenissa geminipuncta, pourraient contribuer à lutter contre cet indésirable. Mais il existe un sérieux obstacle à leur introduction. Une sous-espèce rare et non invasive de phragmites qui est indigène de l'Amérique du Nord et dont les chenilles risquent de se régaler tout autant que de son envahissant cousin exotique. Ce cas a soulevé une farouche controverse entre les spécialistes voulant se doter d'un outil pour lutter contre le phragmite envahissant et ceux, dont je fais partie, qui soutiennent qu'on ne doit pas risquer de sacrifier une plante qui est indigène et qui est de plus en plus rare, surtout pour un mode de lutte biologique dont le succès n'est pas garanti. Et vous, qu'en pensez-vous? C'était Lutte biologique, jusqu'où peut-on aller? Par Jacques Brisson, paru dans Quatre temps, printemps 2023.
Retour d'un enfant adulte. Comment réussir la cohabitation? Un texte de Véronique Coutu, paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage. Bon, ça y est. Alors que vous étiez confortablement installé dans votre routine, que vous aviez réaménagé votre espace à votre goût, que vous vous étiez permis de vous procurer quelques meubles convoités depuis tant d'années, votre plus jeune vous appelle pour vous demander s'il peut revenir à la maison le temps de se virer de bord. Que ce soit à la suite d'une séparation, de la perte d'un travail ou de la hausse du coût de la vie, votre jeune souhaite reprendre son souffle pour mieux redécoller. Naturellement, le plan semble logique. Après tout, vous avez l'espace. Une démarche sérieuse? Petite mise en garde. Validez le sérieux de sa démarche avant l'aménagement. Est-il plus facile d'appeler papa ou maman que de se prendre en main? Est-ce que sa copine l'a mis dehors parce qu'il passait ses soirées à jouer aux jeux vidéo, ce qu'il continuera à faire chez vous? est-ce qu'il économise sur les frais de logement pour sortir? Ou, à l'inverse, épargne-t-il pour mieux rebondir? Bien entendu, l'objectif n'est pas d'infantiliser l'adulte, mais plutôt de mesurer son niveau de maturité et l'ampleur de sa prise de conscience. À ce stade-ci, votre boulot de parent est terminé. Il ne s'agit pas de l'éduquer comme à l'époque où il était adolescent, mais bien de mettre vos limites pour assurer une bonne entente. Quelle sera la durée de cette cohabitation? Quel est son seuil pour se sentir prêt à quitter le nid? Ensuite, vous pouvez établir un montant qu'il vous versera pour assumer sa part de responsabilité, logement, épicerie, etc., et discuter du partage des tâches. Si les attentes ne sont pas clarifiées, cet épisode pourrait être difficile pour tout le monde. Vous risquez alors de marcher sur des œufs, autant avec ce jeune qui se sent possiblement en situation d'échec qu'auprès de votre partenaire ou de vos proches qui ne voyaient pas au départ cette cohabitation d'un bon œil. En discutant, le risque est moindre de vous faire prendre au piège et de ne plus voir la fin de cette aventure. Vous ne voulez certainement pas vous rendre à l'étape de devoir déménager pour régler la situation. Un retour qui donnera des ailes? Cette cohabitation temporaire peut toutefois être très bénéfique, autant pour lui que pour vous. En l'hébergeant, vous lui permettez de se reprendre en main et créez l'occasion de lui prodiguer certains conseils, ici et là, ceux que vous n'aviez pas pu partager avec lui alors qu'il était sourd à cela ou bien si peu présent à la maison. Il se peut que cette période soit également riche en échanges avec les petits-enfants, qui comprendront au demeurant qu'une famille s'entraide et se soutient. Bien vécu, cette période pourrait même solidifier votre relation. C'était « Retour d'un enfant adulte. Comment réussir la cohabitation? » Un texte de Véronique Coutu, paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage.
Sur les pas d'Oscar et d'Olivier dans la petite Bourgogne, vie associative dans le quartier, un texte de John Willis, paru dans la revue Capot Diamant, été 2023, numéro 154. Nous reprenons notre chronique sur les aspects de la petite Bourgogne, berceau de la carrière de deux grands jazzmen de Montréal, Oscar Peterson et Oliver Jones. Il y a toujours quelque chose à faire pour un enfant dans la petite Bourgogne. On joue à la tag et au baseball dans la rue. Il suffit de descendre la rue Canning, non loin de St. James, peut-être en courant, et vous arrivez à la voie ferrée du CN. On y trouve un grand marché aux fruits et son entrepôt à fruits dans un bâtiment connexe. Y avait-il des provisions pouvant compléter le repas? Peut-être qu'on préfère s'alimenter à même son potager. Le père d'Oliver loue un petit espace le long du chemin de fer afin de cultiver des légumes. Le quartier comprend divers magasins, incluant des épiceries et établissements industriels, une imprimerie, une entreprise de nettoyage à sec, Dominion Cleaners Limited. Il y a non loin une taverne à l'intersection de Fulford et St. James. Est-ce qu'on y acceptait les Noirs? Plus au sud, on trouve le canal de la Chine où passent les Canalers, ces vaisseaux faits sur mesure pour ce genre de voie d'eau avant l'avènement de la voie maritime à la fin des années 1950. Une succession de moulins et d'usines sont disposés de part et d'autre du canal. Plusieurs fonctionnent à l'énergie hydraulique depuis 1850. Les prises d'eau pour les moulins siphonnent l'eau du canal, créant des contre-courants qui pouvaient ralentir l'avancée des bateaux. Le canal est source d'énergie et d'amusement pour les enfants, en plus d'être navigable et d'alimenter en charbon. À l'époque, on a l'habitude de ramasser les morceaux de ce combustible laissés ici et là près du canal et autour du port. Les jeunes pouvaient s'improviser glaneurs de charbon ou de n'importe quoi. Il y a un garage voisinant la résidence des Peterson et plus loin, une compagnie de livraison et une salle de mission, Mission Hall. Le devant des édifices est fait de briques. Vers l'arrière se trouvent des abris de bois, peut-être pour les toilettes. Aux alentours de la petite Bourgogne, il y avait suffisamment de circulation pour attiser la curiosité des enfants. Ceux-ci devaient s'exprimer, voire même crier en anglais « You're out », comme les Peterson et les Jones, et en français « Retirez sur trois prises ». Chez les voisins d'Oscar sur St. James, on trouve des noms de famille très canadiens, Séguin, des hôtels, des jardins, etc. Non loin, on trouve sur la rue Notre-Dame la synagogue Beth Amdrash. On pouvait donc entendre un anglais aux accents yiddish dans la rue comme sur les trottoirs. Oi! Les Peterson, Jones et beaucoup de leurs voisins ne fréquentent pas les écoles catholiques et francophones. Leur établissement protestant s'appelle la Royal Archer School, construite en 1910 au coin de Workman et Canning, une imposante structure en béton entièrement vitrée selon l'Atlas Gold de 1941. Il y a un grand terrain dégagé autour de l'école. À quelques pas de là, sur Notre-Dame, on trouve une patinoire et un terrain de jeu sans doute prisé par les étudiants de Royal Archer et d'autres jeunes des alentours, dont les écoliers canadiens-français de l'école d'Iberville de Sainte-Cunégonde. Le dimanche, on va à l'église Union United Church. On peut y passer presque toute la journée, car on y organise des activités pour les jeunes et les moins jeunes après la messe. Fondée en 1907, la Union déménage dans la vieille église méthodiste francophone French Methodist Church en 1917, à l'intersection des rues Atwater et de Lille. L'église abrite dans son sous-sol, durant une trentaine d'années, 1924-1954, le centre communautaire connu sous le nom de Negro Community Center. C'est donc dire que l'essentiel de la vie associative organisée des Noirs dans le sud-ouest de Montréal tient dans un petit espace qui englobe tout au plus 25 à 40 rues courant, soit en direction nord-sud, soit en direction est-ouest. Cela ne veut pas dire que parents et enfants ne peuvent quitter le quartier. Les chefs de ménage masculins, qui furent porters, porteurs, sur les chemins de fer, le faisaient tous les jours, parfois pour une durée de 14 jours, tout comme les femmes ménagères travaillant dans les résidences plus huppées de la haute ville. La mère d'Oscar fait régulièrement le ménage pour d'autres afin de compléter le revenu familial, notamment quand son mari manquait de travail. On peut se déplacer sur une base quotidienne vers des endroits plutôt proches avec maman, comme le faisait Oliver Jones, durant la fin de semaine. Il partait en direction du marché Atwater, construit en 1933, afin de regarnir le garde-manger familial. En 1941, selon une carte d'époque, le tram passe sur les rues importantes du quartier, Saint-Antoine, Saint-James et Notre-Dame. Les lignes de tram desservent les principales gares ferroviaires de la métropole, le Forum aussi, bien sûr, ainsi que le terminus d'autobus rue Dorchester de la compagnie de transport provincial. Les autobus de la Montreal Tramways Company donne accès au restant de la ville, entre autres vers la pointe Saint-Charles au sud et le centre-ville commercial au nord. Exceptionnellement, l'autobus numéro 74 roule sur le pont Jacques-Cartier en 1941 et probablement depuis le début des années 1930. On pouvait ainsi se rendre jusqu'à Longueuil et les autres bourgs de la rive sud. Aller loin. Tel fut le destin de ces deux pianistes, Oscar Peterson et Oliver Jones, dont les parents venaient des Antilles. En débarquant à Montréal, ceux-ci ont choisi de pousser leurs prodiges vers la musique. La genèse de leur carrière se trouve dans ce petit quartier au potentiel insoupçonné. Dans la petite Bourgogne, on pouvait manquer d'eau courante à la maison. Souvent, les familles ne disposent pas d'un réfrigérateur. Sur la rue Fulford, chez les Jones, les denrées périssables étaient conservées grâce à des blocs de glace. J'ignore si, comme sur la rue Saint-Urbain où a grandi Mordecai Richler durant la Seconde Guerre mondiale, on disposait d'un téléphone. Il y avait certainement des radios et des gramophones pour soutenir le goût de la musique. À moyen terme, on observe une croissance du capital social de type culturel qui devient la fondation d'une économie familiale qui se déploie sur plusieurs générations. Le succès de certains dans le jazz, par exemple, est une affaire de famille, de collectivité. Des historiens ont examiné le mouvement analogue du capital foncier pour d'autres groupes sociaux, mouvement qui peut se dérouler sur des décennies. Il y a fort à parier qu'une étude plus poussée des voisins canadiens-français de ces deux jazzmen, Oliver et Oscar, nous révélerait toutes sortes de success stories et de frustrations aussi, individuelles et collectives. Il suffit de regarder de plus près le contexte, la matière première, géo-historique dans lequel nos ancêtres ont fabriqué leur vie afin de préparer la nôtre. C'était, sur les pas d'Oscar et d'Oliver dans la petite Bourgogne, vie associative dans le quartier, un texte de John Willis, paru dans la revue Cap au Diamant, été 2023, numéro 154.